Europe 1. 18h-19h sur CNews et Europe 1. Punchline. Laurence Ferrari.
18h38, on se retrouve en direct dans Punchline, CNews Europe 1. Marie-Hélène Toraval, maire de Romans-sur-Isère, est toujours avec nous. Est-ce que vous avez une solution à proposer pour endiguer cette violence des mineurs? Vous vous êtes plainte, et à juste titre, de ne pas être entendue en tant que maire. Est-ce que vous avez des solutions pratiques? Parce que là, on entend parler de couvre-feu, d'internat éducatif, restaurer l'autorité de l'État, responsabiliser les parents. Il y a une solution que vous vous proposez, qu'on n'entend pas?
Je pense qu'il n'y a pas une solution, il y a des solutions. Elles ne peuvent pas être la seule initiative du maire. Je pense que le mal est beaucoup plus profond. Et lorsqu'on parle, il faut parler des mots. Et les mots ne doivent pas être uniquement rattachés à certains courants politiques, je vais le dire très clairement. Je pense qu'il faut qu'on soit capable de se mettre autour de la table, de parler d'immigration. Il faut qu'on soit capable de parler d'intégration. Et il faut qu'on soit capable de parler de laïcité. Et quand on aura un débat apaisé et une analyse aussi sur ce qui a bien marché, mais aussi l'ensemble des manquements qui sont les nôtres, les choses qui sont à améliorer, on pourra aller sur une forme de stratégie avec un plan d'action. Et là, j'ai quand même l'impression qu'on sort le plan d'action avant d'avoir partagé...
C'est-à-dire qu'il y a toujours un tabou sur les questions d'intégration, d'assimilation, d'immigration. Selon vous, on n'en parle pas?
Je pense
plus librement.
Je pense que c'est l'apanage aussi de certains, et puis que c'est un mot tabou pour les autres, alors que moi, ça me pose absolument aucun souci, quoi. Enfin, et on est d'autres, on est nombreux à vouloir en parler, mais de manière pas philosophique, mais de manière concrète.
Pragmatique.
Pragmatique. L'intégration, eh bien, comment ça s'est passé sur le terrain? Moi, je vous donne juste un exemple. Quand on parle de quartier sensible qui me concerne, c'était effectivement à l'origine un quartier populaire. Aujourd'hui, je vous...
La Monnaie.
Oui, aujourd'hui, je vous dis que c'est un quartier communautaire.
Communautaire,
ouais. Bien sûr.
C'est-à-dire
Parce que l'immigration qui s'est opérée au fur et à mesure, c'est-à-dire que les gens vraiment qui constituaient ce quartier populaire ont eu un parcours résidentiel, donc maintenant, généralement, avaient des objectifs d'accession à la propriété, ils y sont parvenus. Et en fait, avec l'ensemble des flux de l'immigration, eh bien, du flux migratoire, la seule solution, c'était d'aller sur le logement social. Et finalement, on a organisé ces ghettos. On est à l'origine aussi de ces formes de ghettos. Donc, il faut avoir le courage de le regarder en face aussi.
Et on peut les déconstruire, ces ghettos?
Alors maintenant, il faut travailler dessus. Vous imaginez bien que quand vous avez un logement social, vous avez un bail à durée indéterminée. Donc ça n'est pas rien. Donc ça veut dire que finalement vous êtes là, vous y êtes pour toute une vie, et puis vous vous retrouvez aussi, puisque l'intégration se fait mal, vous vous retrouvez en fonction de votre pays d'origine ou de vos sensibilités. Ensuite, il y a la part de la religion aussi qui est forte sur ces quartiers, parce que c'est une certaine forme d'autorité. Donc, les règles qui s'organisent sur ces quartiers sont vraiment en décalage par rapport aux règles qui sont celles de la citoyenneté,
de la laïcité, entre autres,
dans notre République.
Qui sont les valeurs de la République. Oui. Un diagnostic clair, encore Absolument. Une fois, Sabrina Medjeber, ça recouvre beaucoup ce que vous nous dites régulièrement sur ce plateau.
Tout à fait.
Et là, c'est une élue de terrain qui nous le dit.
Oui, absolument. Madame Toraval a une analyse beaucoup plus pragmatique que la mienne, puisque moi, ces quartiers, je les ai quittés il y a 20 ans. Et je retrouve malheureusement qu'aujourd'hui, ce sont les mêmes habitudes, ce sont les mêmes us et coutumes, c'est le même normatif linguistique, ce sont les mêmes codes anthropologiques. Ça n'a pas changé parce que, vous avez tout à fait raison, l'État a organisé ces quartiers, où la seule règle, c'est l'homogénéité culturelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité pour cette jeunesse, qui est jeunesse, mais pourtant descendante, de primo-arrivants issus de l'immigration. Je pense par exemple à mes parents qui sont venus en France par la voie du regroupement familial, mais à l'époque, la France était un pays industrialisé. À partir du moment où il y a eu ce point de bascule dans les années 90, à partir du moment où ces quartiers n'étaient plus des bastions ou des bassins industriels, eh bien, la nature ayant rendu vide, ça a laissé place à des sociabilités parallèles et à des économies parallèles. Donc, pour réparer ce problème d'assimilation, d'intégration et de respect de la laïcité, il va déjà falloir, je pense, penser à un plan d'industrialisation du pays pour que ces jeunes laissés à l'abandon qui font le chouf à 12 ans puissent déjà étudier en toute liberté, parce que la liberté de conscience est largement attaquée en France, y compris même pour les jeunes issus de l'immigration, mais également par le travail. Alors moi, je suis, par exemple, pour le rétablissement du service militaire, Madame le maire, je vous le dis honnêtement. Pourquoi ? Parce que comme rétablir l'uniforme à l'école, ça confère un sentiment d'appartenance, ça confère un sentiment de fierté nationale, ça fait ça donne sens, ça fait corps justement à une vision de l'émancipation de l'élève vers le citoyen. Alors, qui deviendra un adulte.
Alexandre Devecchio,
le service militaire, je suis pour.
Concrètement, c'est pas simple à mettre en place.
Oui, mais alors on va vous dire, ça coûte cher, mais enfin la délinquance coûte extrêmement cher. Le fait pour un pays de ne pas être capable de se défendre peut nous coûter très cher à l'avenir. Donc oui, parce que ça donnera un sentiment d'appartenance aussi. Donc je pense pas que c'est la solution miracle, mais je pense qu'il faut le faire, y compris d'ailleurs pour des raisons de défense. En réalité, on voit bien que les menaces se multiplient et que malheureusement il faut qu'on se réarme. Je suis pas d'accord avec Emmanuel Macron sur le fait d'aller tout de suite faire la guerre à la Russie. Je pense qu'on n'est pas prêt, mais le fait de se réarmer.
Parce qu'il a dit non plus, Alexandre.
Non, je plaisante. Mais le fait de se réarmer sur le long terme, je pense qu'il avait raison.
Le réarmement civique et le réarmement tout court.
Ensuite, pour revenir sur l'immigration, je pense qu'effectivement, faut en parler parce que c'est un problème qui fait tache d'huile. En fait, il faut bien dire la vérité. Le problème de l'immigration devient le problème du logement, devient le problème de l'école, devient le problème des collectivités locales, devient le problème de la santé, de la sécurité. Et donc, effectivement, c'est en réalité quelque chose de transversal, et ça commence en réalité par là, puisqu'en réalité, si on a un problème d'intégration, c'est aussi parce qu'on a renoncer à notre modèle, mais c'est aussi parce que les flux sont trop importants, et c'est, si vous voulez, c'est facile d'intégrer ou d'assimiler un individu. C'est moins facile quand vous avez des communautés entières, voire des peuples qui arrivent avec leurs propres mœurs. Donc oui, il faut en parler.
Rapidement, faire le bon avance, Louis, et après la maire.
Effectivement, le tabou de l'immigration, je suis d'accord avec vous, évidemment. Il y a une surreprésentation de la part de l'immigration dans la délinquance. On a publié Europe 1 un chiffre la semaine dernière. À Paris, 77% des mis en cause dans les affaires de viol sont d'origine étrangère. Et donc, je trouve que c'est quelque chose qui, d'ailleurs, qui mérite d'être creusé. Parce que ça, aujourd'hui, on entend le discours selon lequel, en gros, tous les Français seraient des prédateurs sexuels en herbe. En fait, quand on dissèque, on rentre dans l'analyse des données, on se rend compte qu'il y a une surreprésentation des étrangers dans cette délinquance sexuelle. Voilà, c'est une petite aparté sur cette thématique-là. Mais voilà, de manière globale, on le voit bien, les vols avec violence, les vols avec armes, il y a une surreprésentation quasiment systématiquement de l'immigration. Donc le lien, il est fait statistiquement et de manière mathématique. Ensuite, par rapport à la réponse service militaire, je suis d'accord avec la deuxième partie de votre phrase, mais pas du tout la première. C'est-à-dire que à quoi sert le service militaire dans une nation ? Ça sert à lever une classe d'âge en armes pour protéger la nation. La mission du service militaire n'a jamais été d'éduquer, de régler les maux de la société. La conséquence de lever une nation en armes, une classe d'âge 600 000 à 800 000 jeunes par an, permettait de créer des valeurs, de fédérer un certain nombre de la vie en société, d'apprendre à dire bonjour, au revoir, des choses totalement élémentaires, à la limite tant mieux. Mais ça ne doit pas être, je pense que ça ne doit pas être le moteur de l'éventuelle réhabilitation du service militaire sur le territoire.
Fausse bonne solution, le service militaire, Madame Toraval.
Moi, ce que je trouve bien dans le service militaire, c'est la méthode. Ce qui est différent de remettre en place le service militaire. Parce qu'après, moi, je me mets... Il y a aussi tous ces jeunes qui nous posent absolument aucun problème.
Bien sûr.
Donc, quand vous faites...
On n'en parle pas.
On n'en parle pas.
Non.
Mais sauf que quand vous leur parlez de service militaire, ils ne sont pas forcément motivés pour aller interrompre leurs études pendant un an pour aller au service militaire. Enfin, je veux dire, si on l'a arrêté, c'est parce qu'on voulait faire aussi professionnaliser par rapport aux menaces.
Oui, une armée de métier.
Donc, par contre, sur les méthodes, je ne dis pas non. Je pense que ça peut être intéressant. C'est un peu aussi ce qui anime les centres d'éducation fermée. Il faut peut-être pousser un peu plus dans ce sens-là. Mais je voudrais revenir quand même sur ce point. C'est, ils sont pas en incapacité de suivre des règles. C'est-à-dire qu'ils se sont ils s'autogèrent et ils ont fixé leurs propres règles. Donc là, ils sont à un point aussi où ils combattent le pays dans lequel ils sont et ils combattent la nationalité qui est la leur. C'est quand même particulièrement inquiétant. Donc, il y a quand même une espèce de manipulation intellectuelle qui s'est opérée dès le plus jeune âge. Donc c'est pour ça que je suis un peu contrariée, enfin pas contrariée, c'est peut-être pas vraiment le mot qui convient, mais je reste dubitative par rapport à l'ensemble des propositions qui sont faites,
parce que de Gabriel Attal.
Vraiment aller chercher sur le fond, et il faut oser le faire. Et je dis que si une politique de lutte contre la délinquance, a pour deadline une échéance électorale, on n'y arrivera jamais.
On n'y arrivera pas. C'est une affaire de génération.